Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu Média et Culture au sens large. Tiens, aujourd'hui, par exemple, hasard de la programmation, on va célébrer trois institutions. On n'oublie pas nos nouveautés de cette rentrée. Par ordre d'entrée en scène, Louise Bernard pour le Journal des Médias, Bruno Donnet pour ses télescopages, Lisa-Marie Marquès et son portrait préfame et Marc-Antoine Lebray en toute fin d'émission. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct. Vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média, donc, autour d'un documentaire qui déconstruit les clichés sur une institution, la police et les policiers, sans toutefois évacuer les sujets qui fâchent. C'est la saison 4 de l'excellente série documentaire « Pourquoi nous déteste-t-il ? » Nous serons avec les deux réalisateurs, dont un ancien policier. Puis nos invités, les trois figures emblématiques des chiffres et des lettres. Le jeu le plus ancien de la télé française, il a 50 ans. Laurent Romeschko, Ariel Boulimprat et Bertrand Renard sont là depuis 30 ans, 35 ans et 46 ans. Le compte est bon. Jean-Luc Godard, qui est fan de l'émission Expliqué, c'est une émission que j'aime bien, dit Godard, parce qu'on voit des gens qui pensent. Enfin, une personne qui pense, une institution du théâtre, à la comédienne moliérisée, 40 ans de comédie française à elle seule, Catherine Yégel, pour une pièce en seule en scène. Ça s'appelle « Les règles du savoir-vivre dans la société moderne », des règles écrites il y a plus de 150 ans, qu'il faudrait peut-être ne pas suivre et que beaucoup suivent encore. C'est pas très clair ? C'est fait exprès. Écoutez-nous en deuxième heure, vous allez tout comprendre. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h donc. Culture Média, c'est parti. Et bonjour Louise Bernard.
Et bonjour Philippe Vandel, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
Du changement à la tête de Paris Match et du JDD, le décès d'une voix française, les suites de la plainte contre Miss France, le retour de l'émission La France a un incroyable talent, et puis un demi-anniversaire, celui de l'application Radio Player France.
Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé le téléfilm policier sur France 3, La mort est dans le pré, 4 140 000 téléspectateurs, 19,2% de part d'audience. Excellent score qui permet à France 3 d'être devant Koh-Lanta sur TF1, 3 840 000 téléspectateurs en baisse cette semaine, 19,7% de part d'audience. Et puis troisième, le film d'action sur M6 Red, 2 050 000 téléspectateurs, 9,9% de part d'audience. À noter le bon score de la Ligue des Champions sur Canal+, PSG Leipzig, 1 720 000 téléspectateurs hier soir.
Culture Média. Ce journal des médias qui s'ouvre avec du changement à la tête de Paris Match et du Journal du Dimanche à 6 mois de l'élection présidentielle.
Hervé Gattegnaud, directeur des rédactions, quittera ses fonctions à la fin de la semaine. Il était à la tête du JDD depuis 2016 et de Paris Match depuis 2019. Le groupe Lagardère, auquel appartient Europe 1, n'a donné aucune explication sur son départ. L'a simplement chaleureusement remercié dans son communiqué de presse. Ce que déplore la société des journalistes du JDD, elle exprime sa vive préoccupation après cette annonce surprise et précise qu'ils resteront vigilants quant à la nomination du nouveau directeur ou de la nouvelle directrice et à d'éventuelles répercussions sur la ligne éditoriale. Les noms de ces remplaçants devraient justement être connus dans les prochains jours.
Et on a appris hier le décès du comédien Bernard Tiffen.
Doubleur français de nombreuses voix, dont le célèbre Chuck Norris.
Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
Voilà, réplique mythique dans Portée disparue. C'est donc c'était Bernard Tiffen, cette voix, la voix de Chuck Norris. Et surtout dans 203 épisodes de Walker Texas Ranger, Bernard Tiffen qui prêtait également sa voix à plusieurs acteurs comme Christopher Walken dans une trentaine de films, Donald Sutherland dans une vingtaine. Et puis des personnages aussi, le robot Bender dans Futurama, Dr. Finkelstein dans L'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore Anton Ego, vous savez, c'est ce critique gastronomique dans le dessin animé Ratatouille.
Le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel.
Bernard Tiffen avait 83 ans, il était atteint d'Alzheimer depuis plusieurs années.
La société Miss France réagit à la plainte de l'association Oser le Féminisme.
Dans la voix de sa nouvelle présidente Alexia Laroche-Joubert, c'est un concours, rappelle-t-elle, donc pas question de droit du travail. Je vous en parlais hier, l'association féministe a saisi les prud'hommes avec comme argument que participer à Miss France serait un travail et devrait donc être soumis au droit du travail. Les critères de sélection du concours relèveraient alors de la discrimination. Alexia Laroche-Joubert a balayé l'idée de contrat de travail sur BFM TV et a rappelé son envie de moderniser encore davantage le concours en le centrant moins sur le physique et plus sur les prises de parole des jeunes femmes. Miss France n'est pas une mannequin, elle va au contact des Français et des officiels. Elle doit véhiculer des valeurs auprès des jeunes filles.
Télévision toujours, avec le retour ce soir sur M6 de l'émission La France a un incroyable talent.
16e saison présentée par Karine Lemarchand qui rempile pour une deuxième édition avec du public cette fois-ci. Côté jury, toujours Eric Antoine, Sugar Sammy, Marianne James et Hélène Ségara qui commencent à bien se connaître puisque c'est la 4e année qu'ils passent ensemble.
Cette année, je retrouve cette fusion à la table que nous avions, cette union sacrée avec, sans perdre nos crocs et nos griffes. Hein. Attention, on a quand même... On est sincèrement pas d'accord parfois.
Notre analyse à nous quatre est tellement différente que ça fait un vrai panel pour le public. C'est-à-dire que tous les gens du public peuvent se retrouver à partir de nous quatre. Voilà, moi ce que je n'aime pas aujourd'hui, c'est cette bien-pensance unique. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit formaté et pense pareil. Non, nous on est quatre à table et nos différences on les revendique et on en est heureux. Parce que justement, elles expriment les différences qu'il y a entre les Français et entre les gens qui regardent ce programme.
Hélène Ségara et Marianne James qui vont juger ce soir des numéros aux disciplines très variées. Hein, une démonstration incroyable de taekwondo, un danseur aveugle, une ancienne finaliste de la Nouvelle Star aussi, de retour face à Marianne James. Et puis toujours son lot de numéros décalés, vous savez, avec des gens un peu perchés, comme dit Karine Lemarchand. C'est ce soir à 21h05 sur M6, La France a un incroyable talent.
Actualité économique, Reworld Media qui veut racheter Melty Group.
Des négociations sont en cours pour acquérir l'intégralité du capital d'ici la fin du mois. Reworld Media, vous savez, c'est le leader de la presse magazine qui possède Marie France, Top Santé, Auto Plus, Science et Vie, entre autres. Il veut toucher un public plus jeune en faisant l'acquisition de Melty Group. Ce sont des médias en ligne destinés aux 12-30 ans. 10 millions de visiteurs uniques par mois, quand même. Le montant de la transaction, lui, n'a pas été dévoilé.
Et on termine avec le bilan de l'application Radio Player France, 6 mois après son lancement.
C'est l'application gratuite qui réunit 230 radios privées et publiques et 700 web radios sur une plateforme commune lancée par plusieurs groupes audiovisuels français, dont Lagardère News, auquel appartient Europe 1. En 6 mois, l'application a enregistré 250 000 téléchargements et recense 3 millions de sessions d'écoute au mois de septembre, c'est-à-dire 30 secondes au moins passées sur la plateforme. Et pour ce demi-anniversaire, elle annonce une nouvelle fonctionnalité pour certaines radios qu'ils souhaiteraient, comme la possibilité de rembobiner jusque 4 heures avant. Donc ça veut dire que si vous arrivez en plein milieu de ce journal, vous pourriez par exemple le recommencer au début pour tout écouter. Radio Player France qui promet également plus de podcasts et puis un nouvel affichage avec plus d'informations. Et puis le gros chantier sur lequel elle travaille, c'est être présent dans les voitures, devenir l'offre par défaut puisque près d'un Français sur 3 écoute la radio dans sa voiture.
On suivra,
et
évidemment.
Et on vous salue si vous nous écoutez depuis votre voiture.
Mais bien sûr, attention au volant. On vous salue. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour avec un doc qui déconstruit les clichés sur la police et les policiers sans toutefois évacuer les sujets qui fâchent. Nous sommes avec les deux réalisateurs de ce documentaire. C'est une série, cette fois-ci ça s'appelle « Pourquoi nous déteste-t-il ?» En l'occurrence, les flics. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Il y a un an, la France découvrait avec effroi l'agression de Michel Zecler passé à tabac par des policiers. Des images qui viennent s'ajouter à d'autres et qui se sont multipliées notamment depuis le mouvement des Gilets jaunes et qui ont créé un climat de défiance envers la police. Les policiers et les flics sont pourtant tout autant victimes d'agressions violentes, de menaces de mort et sont même abattus parfois parce que flics. La France entière les avait applaudis après la tuerie de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, cette image est entachée. Que s'est-il passé? Un documentaire qui sera diffusé vendredi soir sur Planète Plus tente de trouver des réponses, de combattre les clichés et de nouer le dialogue. Bonjour Édouard Mounier.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes journaliste et co-réalisateur de ce documentaire « Pourquoi nous détestent-ils les flics ?» Bonjour Majid Berchid.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour Édouard.
Vous êtes le policier qui incarne ce documentaire, vous en êtes également le co-réalisateur. Vous êtes à distance aujourd'hui car vous êtes toujours à l'école près de Lyon pour devenir commissaire, c'est bien cela?
C'est ça. D'ailleurs, excusez-moi d'être à distance, j'ai pas pu effectivement faire le déplacement aujourd'hui. Et donc je suis toujours à l'école des commissaires où j'apprends ce métier chaque jour.
Vous allez avoir cours à quelle heure?
Là, j'ai dû m'absenter du cours pour vous et c'est un plaisir d'être avec vous.
Vous avez un mot d'excuse, merci. Édouard Mounier, comment s'est passée justement la rencontre avec Majid? Autrement dit, comment a-t-il été casté?
Alors, comment il a été casté? C'est une bonne question. En fait, je connaissais Majid parce qu'il était avant au CICOP. Alors, il a fait d'autres services, mais il était donc au service de communication de la police. Mmh. Et je connaissais un petit peu son parcours. Je l'avais rencontré à plusieurs reprises. Et on avait en tête, avec Alexandre Amiel, le producteur, on avait plusieurs noms en tête. Et notre choix s'est porté sur Majid déjà. De par son histoire, il a quand même une histoire vraiment intéressante et parce que aussi on a senti qu'il avait une vraie envie de participer, il avait vraiment envie de dire des choses. Et donc après, c'est comme ça qu'on a lancé.
Majid Berchi, justement, vous voit dans le film autour d'une table avec votre mère, avec votre frère, et ça n'a pas toujours été facile pour vous d'assumer d'être policier. C'était comme faire un coming out, de dire à votre famille, à vos proches que vous vouliez faire ce métier?
Oui, exactement. Moi, j'étais un enfant d'une famille populaire, modeste, de Tourcoing. On vivait dans un HLM. Forcément, il y avait une population qui était plutôt pauvre dans ces quartiers-là. Et un certain nombre de mes camarades de classe ont petit à petit dérivé dans une forme de délinquance. Et donc, ça n'allait pas forcément de soi de s'engager dans la police pour les autres. À mes yeux, c'était très clair et c'était une évidence de s'engager dans la police parce que, justement, je pouvais voir que la police servait avant tout les plus fragiles, les familles monoparentales, les plus pauvres, les gens qui étaient plus dans le besoin dans ces quartiers. Mais c'est vrai qu'autour de moi, ce n'était pas toujours une évidence. Mmh. Alors heureusement, ma famille m'a soutenu. Je crois qu'on le voit dans le documentaire, il y a beaucoup d'émotions quand on se souvient de mon engagement avec ma mère. C'est un moment fort.
Et puis il y a aussi ce cliché, la police est raciste. Vous êtes de quelle origine? Pardon, vous demandez ça, mais c'est le cœur du sujet aussi.
Non, je vous en prie. Alors mon père est né au Maroc, ma mère en Algérie. Ils sont arrivés en France enfants. Donc moi, je suis né en France, dans le nord de la France. J'ai toujours grandi en France. Je n'ai connu que ce pays. Mes parents m'ont toujours élevé dans l'adhésion au projet national, au projet français, au projet républicain. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu m'intégrer à ce point. Et puis ensuite, la culture a été importante dans mon parcours aussi. On en parle un petit peu dans le film d'ailleurs, ouais. Quand on évoque les auteurs du 19e, etc. Mais c'est vrai que c'est important pour moi cet aspect-là, d'adhérer à tout ce qui était la France, même si effectivement mes parents sont nés à l'étranger, mais moi je me suis toujours senti pleinement français et encore aujourd'hui.
Alors pourquoi nous déteste-t-il? C'est une collection, c'est la quatrième saison désormais, produite par Alexandre Amiel et sa boîte de production. L'idée, le concept, c'est de déconstruire les clichés et aussi de rendre compte de la dure réalité du métier de policier. Votre documentaire, Édouard Mounier et Majid Berchid, commence par un témoignage très fort, celui d'une femme de policier qui a dû fuir avec sa famille le quartier où ils habitaient.
Moi, j'habitais un quartier très calme, c'était tranquille. Et en fait, il y a une famille qui est venue emménager. Et dès l'instant où ils ont eu connaissance de la profession de mon conjoint, c'est parti crescendo, en fait. C'est-à-dire que ça a été des incivilités. Je sonne à ton interphone dans la nuit, des petites vacheries comme ça. Et puis après, on te jette des fumigènes. Au 14 juillet, on te balance des pétards dans tes fenêtres ouvertes. Et puis, on s'en est pris à ma famille. Mes enfants se sont retrouvés avec un couteau sous la gorge dans la cage d'escalier. Et à partir de là, tu peux pas accepter ça. Tu peux plus.
Édouard Mounier, vous connaissiez ces situations de détresse des policiers avant de travailler sur ce documentaire?
Alors très franchement, non. Ça m'a vraiment beaucoup étonné. Et surtout, en rencontrant les policiers qu'on a rencontrés pour le documentaire et cette jeune femme, donc Alexia, c'est qu'on se rend compte que les policiers peuvent vraiment être victimes de préjugés comme n'importe quel autre groupe social.
J'allais vous demander, c'était quoi vos préjugés? C'était quoi votre image de la police avant de faire ce documentaire, avant de rencontrer Majid, justement?
Bon, moi, j'avais déjà fait des tournages avec la police pour différentes émissions, pour des documentaires, donc je connaissais un petit peu la maison, entre guillemets. Mm-hmm. Mais ce que j'ai pu... Donc j'avais plutôt une bonne image. J'avais pas une image trop écornée de la police, contrairement à certains de mes confrères. Mais surtout, en fait, j'ai vu des gens qui souffraient pas mal des préjugés qu'il y avait envers eux, notamment suite à l'affaire George Floyd et à ce qui s'est passé. Surtout ce que j'ai...
George Floyd, c'est aux États-Unis, hein. Mais quand même, ça...
Il y a une vague en France énorme.
La vague est arrivée ici.
Majid pourra en parler mieux que moi, mais surtout...
Non, je voulais interrompre. Je vous interromps parce que je voudrais qu'on entende aussi Majid Berchid. Dans l'année anti-flic, on parlait de George Floyd, mais pour vous, vous dites qu'il y a un moment de bascule, c'est le mouvement des Gilets jaunes. À l'époque, vous êtes donc au CICOP, le service de communication de la police, en tant que community manager. Ça veut dire que vous gérez la communication de la police sur les réseaux sociaux. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous lisez?
Oui, c'est vrai que les Gilets jaunes ont constitué un moment de bascule pour moi, puisqu'à ce moment-là, j'ai eu l'impression que Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde, derrière son écran sur Twitter, par exemple, allait déverser sa haine de la police. Et j'ai eu le sentiment qu'un certain nombre de personnes qui, auparavant, étaient indifférentes à l'égard de la police, voilà, globalement, elles n'avaient pas affaire à la police, donc elles n'avaient ni une image positive ni négative, et bien à ce moment-là, elle a pu commencer à se poser des questions sur notre action, sur notre impartialité, notre neutralité, et à commencer à nous mettre en cause avec des mots très violents. On le voit dans le documentaire, il y a des gens qui nous comparent aux SS, qui vont dire que nous ne sommes qu'une bande d'ordures, etc. Et c'est vrai que ça, à un moment donné, ça m'a ébranlé dans mes convictions, et je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose.
Là, vous parliez de mots, il y a également les images, on a vu des violences policières, on a vu des violences anti-policières, on continue d'en parler dans Culture Média. Pourquoi nous déteste-t-il? Cette fois-ci, c'est consacré aux flics. Édouard Mounier, Majid Berchid sont avec nous, donc avec vous, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Pourquoi nous déteste-t-il les flics? C'est diffusé vendredi soir. C'est un documentaire à 20h55 sur Planète Plus. 3 épisodes à voir sur MyCanal. Ils sont signés Édouard Mounier et Majid Berchid, qui est un réalisateur et en même temps qui passe son concours pour être commissaire. Majid Berchid, on parlait des mots très durs sur Internet et sur Twitter pendant la crise des Gilets jaunes. On a parlé des mots, il y a aussi des images. Vous avez vu beaucoup d'images de violences policières, mais également des images anti-flics. Est-ce qu'il y avait une guerre d'images entre des policiers victimes d'agressions et des citoyens victimes d'agressions elles-mêmes commises par des policiers?
Non, il n'y avait pas de guerre d'images organisée ou pensée comme telle par l'institution. Mais effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a pu voir. On a vu des militants qui étaient ou des citoyens aussi qui relayaient des images de ce qu'ils qualifiaient de violence policière. Et l'institution ou des syndicats ou même des citoyens, eux aussi, partageaient des photos, des vidéos de policiers qui étaient agressés, pris pour cible. Alors, on est évidemment pas dans une concurrence victimaire, c'est pas notre propos, mais on essaie de comprendre dans le documentaire comment on en est arrivé là, alors même qu'en 2015, on sortait des attentats où tous les flics étaient des héros, à en 2018-2019, ces images justement.
Édouard Mounier, est-ce que vous avez construit ce documentaire avec un point de vue subjectif, forcément du côté de la police? La société de production, par exemple, s'appelle Caméra Subjective.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est forcément subjectif puisqu'on a décidé de le faire à travers les yeux d'un policier. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la même démarche peut-être qu'un journaliste qui se dit bon, déjà je vais mettre sur le même plan les citoyens et les policiers. Enfin, nous, on partait vraiment du principe que l'institution fait son métier. Alors, on peut critiquer la façon dont elle fait son métier, on peut toujours souhaiter qu'il y ait des meilleurs policiers, comme on peut toujours souhaiter qu'il y ait des meilleurs journalistes.
Et en journalisme, c'est ce qu'on appelle un angle. Majid Berchid, à l'occasion de ce documentaire, vous êtes rendu pour la première fois dans une manifestation qui dégénérait. Et là, on va vous entendre, on vous voit, si, pour qui verra l'image. Vous allez entamer un dialogue avec quelques black blocs ou apparentés, on ne sait jamais si c'est vraiment des black blocs, mais enfin, ils étaient là. Vous ne leur dites pas que vous êtes policier. On écoute cette scène, je précise, c'est le black bloc qui parle en premier.
Pour moi, ils n'ont rien dans le cerveau, c'est des guignols. On leur donne des armes, ils sont contents. Et voilà, ça leur fait plaisir.
Il y a quand même des gens qui s'inscrivent et qui vont dans la police aujourd'hui.
Bah, ça, c'est quoi, du formatage.
C'est de la haine qu'ils ont.
C'est du formatage, bien sûr, c'est de la haine. Ces gens-là, c'est des barbares, ils sont assoiffés de sang. Ils sont pires que les hooligans. On vient traiter les hooligans dans les matchs de foot, mais regardez-les dans les manifs. Ils sont encore pires que les hooligans. Ils sont pires que tous ces gens-là. C'est des animaux, c'est tout. Même des animaux, ils ont plus de cœur et sont plus intelligents que ces gens-là. Ils n'ont pas de cerveau. Ils n'ont pas de cerveau. Moi, je pourrais pas faire ce qu'ils font. Jamais de ma vie, je pourrais faire ça.
Ces gens-là sont pires que tout, ils n'ont pas de cerveau. Majid Berchid, à ce moment-là, vous ne leur dites pas que vous êtes policier. Comment vous recevez ces mots?
Mais je les prends tels qu'ils sont, c'est-à-dire très violents. Pour moi, ils témoignent d'une fermeture d'esprit, fermée à tout dialogue. Et surtout, ils sont terriblement faux, parce que les policiers sont des femmes et des hommes de grande valeur qui ne s'engagent pas pour faire un travail répressif et être violents. Ils s'engagent pour protéger les gens et servir le public et parce qu'ils aiment leur pays. Donc, je me dis qu'il a tout faux, mais en même temps, je me dis que s'il en arrive à penser ça, c'est que dans son parcours républicain, cet homme est allé à l'école, il a grandi en France, quelque chose n'a pas marché et que aussi collectivement on doit s'interroger là-dessus.
Vous incarnez le documentaire Majid Berchid, vous en êtes également le narrateur, vous menez les interviews comme un vrai journaliste, pardon de vous le dire, pardon de ce compliment. Vous semblez extrêmement à l'aise dans l'exercice. Comment vous avez appris le métier si rapidement ?
J'ai été bien coaché par Edouard et Alexandre Amiel, le producteur. Écoutez, la vérité, c'est qu'on n'a pas triché. Je me suis montré tel que je suis et c'était le pari initial. Et je crois que c'est ce qu'on voit dans le documentaire. Tout à l'heure, vous avez diffusé la partie avec Alexia, cette femme de policier qui a été victime et qui a dû déménager du jour au lendemain. Mais vous voyez, dans ces moments-là, on était avec Edouard et on avait tous les larmes aux yeux. On a souvent pleuré dans ce documentaire. Finalement, on s'est livré tel qu'on est. Et c'est pour ça que ça marche, à mon sens.
Ouais, ils avaient quel âge, les petits ? Les enfants d'Alexia ?
Ils avaient 9 et 6 ans, je crois.
Il s'agit de la saison 4 de Pourquoi nous déteste-t-il ? Je l'ai dit, c'est une collection. Cette année, il y aura 3 thèmes abordés : les flics que vous incarnez, les migrants avec Frédéric Chaud, le comédien d'origine asiatique, et les jeunes de banlieue avec Irina Mulhuil. On va vous écouter tous les trois avec vous, Majid Berchid, dans l'intro du documentaire.
Je suis flic parce que j'adore tabasser les gens, surtout les manifestants et les jeunes dans les commissariats. Et comme tout le monde dans la police, je suis raciste.
Comme tous les migrants, je suis un clandestin. Et je suis arrivé illégalement en France. Ici, pas question de m'intégrer. Moi, je préfère rester avec ma communauté. Et évidemment, j'ai aucun diplôme. Et je suis tout juste bon à nettoyer par terre.
Comme toutes les banlieusardes, je suis à la tête d'un gang de meufs. Je brûle des voitures et je deal. Mais ça, c'était avant. Avant que je parte faire le djihad.
Évidemment, ce sont là les clichés qui sont véhiculés, qui reprennent dans leur voix, mais on sent que c'est ironique. Majid Berchid, vous avez vu les 2 autres épisodes consacrés aux migrants et jeunes de banlieue. Vous en avez pensé quoi ?
J'ai trouvé que c'était une démarche très intéressante. Moi, j'aime beaucoup cette série documentaire. D'abord, j'avais vu l'épisode de la première saison avec Amel Chabi consacré aux Arabes. Mmh. Et j'avais trouvé ça très intéressant de déconstruire les préjugés. Parce que vous voyez, là, on parlait des jeunes de banlieue. Mais c'est pareil, c'est pas parce que quelqu'un porte son survêtement, habite dans tel département qu'il faut le stigmatiser ou qu'il n'est pas intégré ou je ne sais quoi. Donc c'est la même chose qu'à l'égard des policiers. Il y a des préjugés et il faut les déconstruire et aller au-delà et se parler.
Ouais. Édouard Mounier, il y a un numéro sur les flics, un autre sur les jeunes des banlieues, ça s'appelle « Pourquoi nous déteste-t-il ?» Mais on a l'impression justement qu'il y a une détestation mutuelle de la part de ces deux groupes. C'était voulu ?
Non, très franchement, je ne pense pas qu'il y ait une détestation mutuelle. Au contraire, je pense qu'il y a un point commun entre eux, c'est-à-dire que par exemple, quand on est policier et qu'à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, il y a beaucoup de gens qui se permettent d'aller voir, des policiers, s'ils en connaissent, mm-hmm. « Ah tiens, t'as vu la vidéo qui est sortie ? Ah tiens, t'as vu, qu'est-ce que t'en penses ?» Je pense que c'est pour... on en revient aux préjugés dont je parlais tout à l'heure sur les policiers. Enfin, c'est toujours des gens... on associe toujours le policier à l'institution.
Merci beaucoup Édouard Mounier, merci beaucoup Majid Berchid d'avoir été avec nous.
Merci,
je rappelle,
vous
êtes actuellement à l'école pour devenir commissaire, alors on vous souhaite bonne chance. Il vous reste encore combien de temps d'études ?
Alors il nous reste quelques mois, on sortira le 1er juillet 2022, je prendrai mes fonctions.
Merci d'avoir été avec nous. Pourquoi nous déteste-t-il les flics, co-réalisés par vous deux ? Diffusion vendredi soir à 20h55 sur Planète Plus. Et les 3 épisodes sont déjà à voir sur MyCanal. C'est produit par Caméra Subjective. Dans un instant, à parler d'une institution, encore une, un jeu télévisé, c'est le plus ancien de France. Des chiffres et des lettres, on sera avec toute l'équipe, Laurent Romeschko, Ariel Boulin et Bertrand Renard. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Musique générique. On a reconnu la mélodie ancienne, historique, mais avec un habillage moderne à la guitare Stratocaster saturée. C'est le générique. C'est vrai, les chiffres et les lettres.
C'est vrai.
Bonjour Laurent Romeschko.
Bonjour Philippe.
Bonjour Ariel Boulin-Pratt.
Bonjour Philippe.
Bonjour Bertrand Renard.
Bonjour Philippe.
Votre actualité, pas d'actualité particulière en ce mercredi 20 octobre 2021, sinon vous incarnez une institution, la deuxième plus ancienne émission de la télé après le jour du Seigneur et le plus ancien jeu qui existe depuis 50 ans, depuis janvier 72. Vous, Laurent Romeschko, vous allez bientôt fêter vos 30 ans à la fête de tête de l'émission, c'est ça ? En
déjà
juin 92,
ouais.
Juin 92.
Oh ouais,
30 ans, ça
c'est
paraît beaucoup, mais en réalité, vous êtes un petit joueur. Ariel Boulin-Pratt, puisque vous avez parlé sans que je vous donne l'autorisation, vous étiez prof dans la première vie. C'est pour ça que je me donne
oui,
la première vie.
C'est vrai.
Ça ne se faisait pas de parler sans lever le doigt. Vous êtes arrivé quand sur l'émission et de quelle manière ?
Je crois le 26 février 86.
Ah, c'est précis.
Je suis arrivée tout à fait par hasard parce qu'il y avait une annonce dans Libé, enfin une annonce, oui. Jameau demandait.
Armand Jameau, le producteur,
Armand
le créateur
Jameau,
du
voilà,
jeu.
Disait qu'il voulait remplacer Geoffre Achon plutôt par une femme et il fallait envoyer des candidatures. Je trouvais ça tellement suspect que j'ai téléphoné à Antenne 2 à l'époque pour dire mais c'est vrai, c'est une blague ou pas? Ils m'ont dit non, c'est sérieux. Voilà, puis il y a eu un casting. Et puis.
Et vous avez été engagé et ça fait combien de temps donc?
Ben donc, ça va faire
37 ans,
alors que suivant le.
34 ans.
34 ans. Je précise juste que c'est le gars qui est là pour vérifier le résultat des calculs.
Mais non, ça fait 35 ans, Bertrand.
Bertrand Renard. 87.
86.
Ah, 86, oui, alors 35 ans.
Bon, enfin, non, Bertrand Renard, je vous sens.
Non, mais j'avais compris, 87, voilà. Vous êtes dur de la feuille aussi.
Vous êtes un enfant des chiffres et des lettres, vous y êtes arrivé comme candidat et comme vainqueur. Votre spécialité, ce sont les chiffres.
Oui, on peut dire ça. Enfin, pas dans la vie, mais oui.
Sur le jeu, puisqu'on parle du jeu.
Ah, sur le jeu,
on est une émission média, je vous demande pas.
Oui, mais j'ai un dictionnaire.
C'est vrai.
J'ai un dictionnaire.
Vous nous direz pourquoi. Vous êtes arrivé à quel âge ?
19 ans.
Ça fait donc
46 ans.
46 ans, c'est ce que vous avez noté. Voilà. Quand on vous demande l'explication de la longévité de l'émission, vous répondez souvent Laurent Romeschko, et même tous les trois, parce que les règles n'ont jamais changé. Il s'agit de faire le mot le plus long, d'obtenir une somme donnée à partir de nombres et des quatre additions traditionnelles. Qu'est-ce qui a changé dans l'émission depuis 72 ?
Vous venez de le dire, vous l'avez expliqué en moins de 5 secondes. C'est la simplicité du jeu et c'est l'universalité aussi du jeu. Tout le monde peut jouer à son niveau. Je pense que c'est la grande simplicité qui fait le succès.
Ma question, qu'est-ce qui a changé depuis 72 ?
Le nombre de lettres a changé.
Ah oui.
10. La rapidité, on est passé de 7 au tout départ en 72 et à 10 aujourd'hui, depuis pas mal de temps. La rapidité du jeu, on joue beaucoup plus et puis on a une ouverture aussi à la culture générale.
L'attente est passée de 40 à 30 secondes, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Le temps d'attente.
Laurent a dit qu'effectivement, il y a des questions de culture générale, enfin, assez vastes et sur tous les sujets, avec la deuxième partie qui s'appelle les duels, et où effectivement, on joue toujours sur des lettres, sur des chiffres aussi, mais sur des lettres. Il y a de l'orthographe, donc vous voyez, on ouvre.
Les duels.
Des questions, ça peut être aussi bien.
On a fait une sorte de scénographie, c'est-à-dire qu'il y a trois actes en fait. Premier acte, deuxième acte, troisième acte. Et ça a aussi changé, puisqu'à la fin, il y a une épreuve de rapidité.
La rapidité, elle va très vite. On va entendre un mot, Laurent, et après on écoute la rapidité.
Et puisque elle fait une allusion théâtrale, il y a les trois actes, et puis il y a également le casting et les acteurs. On fait très attention aux candidats, c'est-à-dire qu'on a eu pendant très longtemps des candidats qui étaient des pointures, qui calculaient plus vite que des ordinateurs, qui trouvaient tout. Aujourd'hui, on a des candidats qui, quelque part, sont un peu plus humains et ressemblent un peu plus aux téléspectateurs.
Ah bon ? Alors, l'extrait qu'on a choisi, il va vous faire mentir. L'émission de lundi. Alors, on a regardé deux émissions, celle d'hier et celle de lundi. C'est comme au théâtre, il y a des bons jours, des mauvais jours. Oui. Vous voulez tourner combien d'avance ? Vous vous souvenez pas de...
Là, on a terminé de tourner hier soir. On doit être aux alentours du 20 janvier, je crois.
Oui, c'est exceptionnel. En général, on a un mois d'avance.
D'accord. Là, c'était dans l'émission de lundi, c'est la partie chiffres. On dit qu'il n'y a pas d'extraterrestres qui vont très très vite. Non. C'est un candidat, il s'appelle Bruno. Il met moins d'une seconde pour trouver un résultat de calcul mental. C'est réalisé sans trucage. On n'a pas touché au montage en temps réel.
1111 moins 999 divisé par 4 multiplié par 35 plus 20 multiplié par 11.
Oui, Bruno.
11 000 ?
Bah oui.
Ouais.
Bon.
Et si ça, c'est
ça
pas
c'est
un extraterrestre
fait.
Voilà.
Non, vous leviez le doigt, Bertrand Renard.
Oui et non, parce que, enfin, moi qui étais candidat, justement,
bien sûr.
À l'époque, les gens, le petit plus, c'était l'idée géniale de Jameau, c'était d'avoir mis les chiffres et de faire du calcul mental. Mmh. Mais la majeure partie des candidats étaient forts en lettres, et moi, j'ai découvert ce petit plus, puisque moi j'ai fait des études de lettres, j'ai découvert ce petit plus que j'étais bon en calcul mental. Ouais. Aujourd'hui, on est passé petit à petit dans une société qui est beaucoup plus scientifique. Et on voit, en particulier avec les jeunes candidats, ils n'ont aucun problème à faire les comptes, ça va, ils vont à une vitesse extrême.
Ah bon, voilà. Donc ça, c'est de l'ordinaire. Ça, pour vous, c'est de l'ordinaire.
Oui, c'est beaucoup plus...
En une seconde, c'est pas de l'ordinaire,
c'est
Bertrand.
Peut-être pas de l'ordinaire, d'ailleurs, c'est pour ça qu'avant, il y avait deux coups de lettre pour un coup de chiffre. C'est aussi une chose qui a changé. Maintenant, c'est un coup de chiffre, un coup de lettre.
Ouais.
Parce qu'on est une société où les gens aiment les mathématiques. Puis les maths, c'est universel aussi.
On a parlé des chiffres, on va parler des lettres. On marque une courte pause. Laurent Romeschko, Bertrand Renard, Ariel Boulin-Pratt, une institution dans ce studio. On en est ravis. Ils incarnent des chiffres et des lettres tous les jours et ils sont avec nous. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Des chiffres et des lettres, c'est tous les jours sur France 3. C'est à 17h10, on entend le générique présenté par Laurent Romeschko, Bertrand Renard. 16h10, pardon. Bertrand Renard s'occupe des chiffres. Ariel Boulin-Pratt, plutôt des lettres. Ariel Boulin-Pratt, justement, en préparant cette émission, j'ai découvert que les candidats également, eux aussi, se préparaient. Exemple, il y a des mots qui sont très faciles à faire, dites-vous, parce qu'il y a des lettres qui tombent très souvent. Par exemple, le A, le I, le E, ça tombe très souvent. Et on peut faire le verbe en 9 lettres, anglaiser. Ça veut dire quoi, anglaiser?
Alors, anglaiser, c'est couper un muscle de la queue du cheval pour que sa queue se rabatte.
Beaucoup plus difficile, rudéral. Vous savez ce que ça veut dire?
Rudéral, c'est qu'il pousse sur les ordures.
Exactement, c'est ce que j'ai sur ma fiche. En même temps, ça vient d'une interview de vous. Il y a également neutrino ou doucine. Le verbe gunité, c'est vous qui le citiez. Ça veut dire quoi, gunité, Bertrand Renard?
Ah, c'est un mélange de béton et de sable, je crois.
Voilà,
projection. Vous êtes trop fort, façon gun.
Comment vous connaissez ces verbes? Comment ça se passe et comment se passe la préparation des candidats? Parce que ce n'est pas gratuit si on sort ces 5 mots-là.
Alors moi, j'en apprends beaucoup pendant l'émission.
Oui.
Ça fait 30 ans que j'apprends tous les jours.
Hein. Ouais.
Mais les candidats, je ne sais pas comment ils s'entraînent.
Comment ils s'entraînent avec l'application. Et puis, ils jouent beaucoup avec, par exemple, 7 plus 1, 7 lettres, plus une lettre. Alors, ils varient la lettre supplémentaire, la 8e lettre. Et donc, ils connaissent les anagrammes par cœur. Hein.
On les voit essayer, parfois, qu'ils cherchent ANT, parce qu'effectivement, on accepte les parties présentes. Donc, quand ils voient dans un tirage qui a ANT, ils vont immédiatement chercher les suffixes, les préfixes, il y a
le tirage aussi dans sa globalité, c'est-à-dire que la première et la dernière lettre, c'est très important parce que on a une photographie des mots et c'est vrai que souvent les candidats déplacent les lettres pour voir s'ils ont quelque chose qui leur vient devant le regard.
Mmh. Vous regrettez l'existence du zapping de Canal+, mythique séquence?
On
se souvient de la séquence culte en 90 avec un tirage de lettres qui faisait apparaître... on l'a en son? On peut faire entendre ce tirage de lettres? Allons-y.
Consonne.
C.
Voyelle.
A.
Consonne.
N.
Voyelle.
E.
Et consonne.
L.
Enculage, au pluriel.
Enculage.
Oui, et des mouches exclusivement.
Des mouches exclusivement, c'était Bertrand Renard. Alors, il y a toujours ça, il y a toujours des pépites. Exemple, dans l'émission de lundi, donc avant-hier, on a l'impression que vous voulez vite changer de sujet. On est en 2021.
Eric. 6 lettres.
Bruno.
7.
Avec.
Échelle.
Un autre.
Oui, un autre. Et nucléé.
Oui.
Oui, absolument. Et QL. Et je cherchais le
Chez Léa, c'est pas de la ville de Chelles, en Seine-et-Marne.
Chelles, c'est en Seine-et-Marne, hein, c'est ça?
C'est ce que j'aurais dit, moi.
Oui, moi aussi, mais... Ouais.
Mais...
Alors, juste une chose, Bruno, et nucléé, vous vous êtes marié, pourquoi?
Ben oui, parce qu'il y a l'anagramme.
Il y a l'anagramme.
Ah oui, il faut.
Oui, pardonnez-moi.
Vous avez avancé?
Chez Léa?
Oui.
Non, pas trouvé.
Ah bon?
Bon.
Ben oui, Bertrand.
Ben oui. Demandez à Attila, chez Léa. Merci. Allez, on y va, Bruno. Combien de voyelles? Elle est pourrie, celle-là.
Elle est bien pourrie, c'est vrai. Hein,
elle était pourrie, cette vanne.
Très pourrie.
Vous voulez laisser les vannes pourries au montage?
Oui, il n'y a pas de montage.
Il n'y a pas de montage.
Ah bon?
Non.
Ah non?
Et vous avez déjà coupé une émission parce qu'un candidat était trop nul?
Non.
Non.
Quelle bande de menteurs?
On a supprimé,
mais
on a demandé, je crois que c'était une candidate, parce qu'elle avait zéro au bout du compte.
Ah oui.
Et on lui a demandé, et elle était d'accord, on ne voulait pas l'humilier. Si, c'est arrivé une fois, je crois.
Une seule fois.
Oui. En 50 ans.
Les fondamentaux de l'émission n'ont pas changé, et on apprend toujours des mots, c'était lundi.
Maman crapaud, c'est la crapaude, et petit crapaud, c'est le crapelet.
Ah, c'est bébé.
Oui, voilà. Enfin, oui, ou même adolescent. Hein.
Le crapelet, comment vous le saviez? Vous avez cherché sur le dico?
Non, on cherche.
Pendant l'émission.
Vous ne le saviez pas
comme ça en arrivant le matin
du tournage? Il y a des choses qu'on sait. Puis grâce à notre formation en latin et en grec, c'est vrai que parfois on peut deviner le sens. Mais quand même, nous ne sommes pas omniscients.
Oui, parce qu'en fait, bon, le secret de l'émission, c'est qu'avec Ariel, on voit immédiatement, dès la fin du tirage, on a la liste des mots.
Ah,
donc en fait, voilà, on n'a pas à chercher, on a à plus exactement chercher le sens de mots qui sont un peu étranges et qu'on ne connaît pas. Donc,
Ariel
le crapelet, voilà, j'avais été chercher dans le crapelet.
Ariel Boulimprat, pourquoi vous avez toujours un gros dictionnaire avec vous, et vous aussi Bertrand, à l'heure de l'iPad, à l'heure de l'Internet?
Ah non, pas du tout, on a une tablette.
Ah bon, bah moi j'ai vu des gros dicots.
Alors moi, moi je l'ai parce que le maniement du dictionnaire en question, qui est le petit Larousse, le maniement sur iPad, la version nette
numérique.
Du Larousse numérique, n'est pas très commode. Et finalement, j'ai plus vite
il
fait.
A opté
mais moi,
pour le
moi, je suis quelqu'un à l'ancienne.
Je me marre parce que je pense aux gens de chez Larousse qui ont mis des millions dans le développement de leur appli que vous êtes en train de détruire en une phrase.
Non, mais c'est très bien. Mais n'oubliez pas qu'avec Ariel, on a une formation. Moi, je suis littéraire aussi. Hein, j'ai une formation de lettres. Donc, on a l'habitude du maniement d'un dictionnaire. D'un dictionnaire papier.
Oui, mais enfin, la version numérique, moi, je trouve que c'est quand même très pratique.
Oui, hein. Bien sûr.
Vous aurez le débat à la cantine.
Exactement.
Ils sont très lettrés, mais parfois un peu électroniques.
Ah, moi, pas du tout.
Non, mais Bertrand.
Ah, peut-être Bertrand, mais non, moi, j'aime.
Godard, je l'ai dit, Godard, qui était fan de l'émission, a dit c'est une émission que j'aime bien parce qu'on voit des gens qui pensent. Fabrice Laffont, c'est le producteur.
Patrice,
j'ai dit Fabrice, c'est Patrice. J'écris Patrice. Fabrice, j'ai qu'à apprendre à lire. Voilà. Patrice Laffont, qu'on est le producteur après avoir été le présentateur, a raconté que quand lui-même présentait l'émission, parfois il s'ennuyait au point que pendant Roland Garros, il s'était fait installer un petit écran de contrôle pour suivre les matchs en douce.
C'est vrai.
Est-ce que vous, il vous arrive parfois de vous ennuyer?
Non, parce qu'il y a eu un rythme qui a été accéléré dans l'émission. Et puis, on n'est pas du tout dans la même configuration. C'est vrai que Patrice, il était entre les deux candidats. Il était filmé en permanence pendant les durées de réflexion qui étaient plus longues, hein, vous le disiez.
Ouais.
Donc, parfois, effectivement, il essayait de faire le gars qui s'intéresse. Mais c'est vrai qu'il trouvait peut-être le temps un petit peu long à l'époque.
Puis nous, on n'a pas le temps, de toute façon, de s'ennuyer parce qu'on doit être sur le coup en permanence. Hein,
et donc, en plus, Roland Garros, je l'ai vu, c'était les demi-finales. Hein, c'était pas... C'était pas la première semaine.
Il y a deux ans, il y a des rumeurs qui avaient couru sur la possible suppression des chiffres et des lettres. C'était en 2019. Le directeur des programmes de France Télé de l'époque, Takis Candidis, n'excluait pas d'arrêter certains programmes si les audiences ne suivaient pas. Vous êtes rassuré aujourd'hui, les audiences sont bonnes?
Oui.
Très.
Mais c'était vraiment une rumeur. Hein. On ne va pas entrer dans les détails, mais c'était vraiment une rumeur qui était partie, qui était partie comme une rumeur et qui avait été reprise.
Oui,
il n'y avait absolument aucun élément concret qui justifiait ça. Et de toute façon, effectivement, on grignote dans un monde de plus en plus concurrentiel, dans un monde télévisuel
Le confinement nous a fait beaucoup de bien, parce que beaucoup de gens, le premier confinement, les gens étaient chez eux, et ils ont redécouvert l'émission, ce qui fait qu'on a plein de nouveaux candidats.
Oui, exactement.
Et de tous les âges, et beaucoup de jeunes.
J'allais vous dire, ça a amené des jeunes aussi.
On a plein d'étudiants, beaucoup.
Laurent Romeschko, Météo à la carte, avec Marine Vigne, ça marche toujours aussi bien.
Oui,
c'était pas mal parti, c'était parti modestement, 300 000. Maintenant, vous faites des pics, vous êtes autour de 800, 900 000, il y a déjà eu des pics à 1 million.
Oui, parce qu'on est parti, de très très bas.
Ouais.
Et voilà, c'est aussi l'objectif sur cette tranche horaire de remonter l'audience. Ça s'est fait progressivement, on nous a laissé le temps. Effectivement, on est parti d'un peu moins de 300 000 pour être aujourd'hui sur une moyenne à 850, 900 000, je ne sais pas exactement. Enfin, on est dans ces eaux-là avec des pointes, c'est vrai, à plus d'un million. Et là, encore une fois, on parlait de longévité, alors nettement moins, bien sûr, que des chiffres. Mais c'est la 10e saison de cette émission.
Déjà.
Ouais, c'est du magazine, c'est au quotidien, c'est en direct et sur un sujet qui est de plus en plus, qui intéresse de plus en plus de monde, surtout depuis le début de la crise sanitaire. C'est vrai qu'on parle beaucoup de consommation saisonnière, on parle beaucoup de proximité, de respect environnemental. Voilà, c'est notre mot d'ordre.
Ariel Boulimprat et Bertrand Renard, vous donnez toujours des spectacles d'opérette?
Non, on n'en donne plus. Ah, moi, je fais toujours partie d'un chœur et on se produit le 12 décembre, là, Notre-Dame des Blancs-Manteaux. On va faire un très beau concert de l'Avent.
Allez-y.
Mais concert de l'Avent, mais non, mais on s'est beaucoup amusé. Moi, je regrette quand même.
Alors, moi j'ai cessé le chant, mais moi, j'écris sur le site de France Info Culture, qui est un énorme site culturel. Donc, je fais. Depuis très longtemps, des chroniques sur la musique classique, l'opéra et parfois le théâtre et la danse. Voilà.
Merci.
Je suis devenu critique musical.
Merci d'avoir été avec nous tous les trois, avec cette belle humeur. Laurent Romeschko, Bertrand Renard, Ariel Boulimprat, je rappelle, des chiffres et des lettres, c'est du lundi au vendredi sur France 3 à 16h10. C'est bien ça.
C'est ça.
Je ne me suis pas trompé. Merci beaucoup. Culture Média continue évidemment après le rappel des titres de 10h. Il y aura les télescopages de Bruno Donnet. Aujourd'hui, il s'est penché sur un métier bien, bien difficile, intervieweur politique. Notre invité, encore une institution, la comédienne Catherine Yégel, pour une pièce de théâtre qui a un seul en scène, les règles du savoir-vivre dans la société moderne. Il faut prendre ça évidemment au sens ironique du terme, leçon de savoir-vivre très sarcastique. Et puis dans les indispensables, musique, Stéphanie Loire va nous dire pourquoi Il faut absolument regarder la série documentaire d'Amazon Prime consacrée au rappeur Orelsan, l'humoriste et imitateur Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. Quel programme ? À tout de suite sur Europe 1.